Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Sortir du capitalisme, le podcast pour une critique émancipatrice du capitalisme.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de Sortir du capitalisme, consacré à Contrainte muette, le pouvoir économique du capital, un livre de Soren Mo qui vient de sortir aux éditions Sans Soleil, traduit par Pablo et Camilla qui sont avec moi en studio pour en parler. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Salut.
On va commencer par une brève présentation des éditions Sans Soleil qu'on a le plaisir de lire, mais c'est la première fois qu'on vous accueille dans ce studio. Qui veut dire un petit mot sur cette maison d'édition, ses projets et la manière dont ce livre s'intègre en particulier dans votre ligne éditoriale?
On est une maison d'édition, on a commencé au tout début de la crise du Covid en 2020. Donc on devait se retrouver, on n'a pas pu, mais on a commencé donc en confinement. Et on est un petit collectif de personnes qui se connaissent depuis un petit moment avec des intérêts... Pour de la théorie critique, de la théorie esthétique. Et en fait, on s'est aussi un peu lancé dans le projet de la fiction et de la poésie. Et donc, on a trois collections. Du coup, cette année, on a sorti ce livre de Soren Mo et aussi un livre de Woodcock sur l'industrie du jeu vidéo. Donc, on essaye d'allier un tout petit peu nos intérêts politiques pour la théorie, et notamment aussi des textes plus proches de la communisation et de la théorie critique au sens large, et puis après des théories esthétiques sur différentes formes en fait de production culturelle. Voilà.
Pour dire deux mots sur la collection, en particulier la collection de théorie dans laquelle s'inscrit ce livre, il vient après deux recueils de textes du groupe Revue Endnotes, qui s'inscrit dans ce sillage de la communisation et qui propose un peu un renouvellement de la théorie communiste et révolutionnaire, dont le dernier en date étant Histoire de la séparation, qui était surtout une théorie du mouvement ouvrier et de sa disparition et de la possibilité du sujet révolutionnaire pour les orphelins du mouvement ouvrier. Et quelque part, le livre de Soren Mo, qui est très inspiré par Endnotes, est à la fois une suite ou un espèce de préquel, je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas, là, cette fois, il s'agit de produire une théorie du capital lui-même pour ensuite allier à ces enjeux de révolution et dépassement révolutionnaire.
Donc ce livre, ce qu'on peut en dire, il fait de l'ordre de 400 pages. L'ambition générale, c'est donc d'élaborer une théorie sur le pouvoir économique du capital qui va aller au-delà peut-être des théories usuelles, soit de l'idéologie, soit de la violence du capital. Donc il s'intéresse à l'économie capitaliste comme système de pouvoir, avec un niveau d'abstraction qui est assez élevé, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. C'est aussi très dense, très érudit finalement, il va quand même convoquer beaucoup de théories différentes. Mais je tiens à dire, en tout cas, mon point de vue personnel, c'était quand même que c'était très bien écrit, alors sans doute très bien traduit aussi. Enfin, on sent qu'il y a un certain souci pédagogique qui va se rapporter à différentes théories en établissant des fois des désaccords, mais sans non plus être polémique. Enfin bon, c'est aussi un travail assez universitaire, mais en tout cas, c'est assez agréable à lire. Ça donne un panorama très large aussi d'un certain nombre de théories marxiennes contemporaines. Et je pense que ça permet aussi différents niveaux de lecture, suivant qu'on soit familier ou pas. Il y a des choses que j'ai complètement découvertes, d'autres qui me semblaient... plus usuel, mais du coup, ça, je pense que ça se lit et ça se relit avec un certain plaisir. Et malgré voilà, les 400 pages, ça se lit assez bien. Et donc, c'est un livre qui est constitué de trois parties qui s'appellent conditions, relations et dynamiques, sur lesquelles on va revenir. Donc, conditions, il va s'agir de poser des concepts de manière assez philosophique et abstraite pour commencer, et puis voir à quoi ils se rapportent aux autres théories du pouvoir, qu'elles soient marxiennes ou critiques d'une manière générale. Relations, bah, on va parler des différentes relations horizontales, verticales, de genre, de race, etc. On aura l'occasion d'en reparler. Et puis, dynamique, il s'agira de voir comment, en fait, dans la production et la reproduction du capital, le pouvoir est toujours à la fois source et résultat de ce mouvement-là. Donc, la vision de quelque chose qui est un processus, une circulation du pouvoir.
Pour revenir sur ce que tu disais, le texte, il est particulièrement clair, malgré sa densité. C'est-à-dire, oui, il nous donne un aperçu d'énormément de débats et de discussions dans le marxisme extra-universitaire, universitaire, académique, pas juste anglo-américain, mais aussi suédois. Donc, en fait, on brasse énormément de théories et en même temps, on le fait très clairement parce que Mao, il a une formation dans un milieu, je pense, plus au Danemark. Et du coup, il y a un truc un peu analytique de présenter ce qu'on va dire clairement et puis ensuite d'avancer un argument le plus clair possible, ce qui facilite en fait l'accès de ces points théoriques. Et donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles on a beaucoup aimé le livre. Et puis aussi, on n'a pas mentionné, mais c'est préfacé par Michael Heinrich qui a un peu accompagné l'écriture du livre. Et Heinrich, c'est un auteur qu'on apprécie aussi beaucoup, qui a aussi fait un travail de rendre plus accessibles certaines thèses importantes de Marx ou des manuscrits de Marx en les synthétisant, mais aussi en revenant à des points théoriques essentiels, sans dogmatisme, et en même temps en ayant cette idée que ce que Marx fait, c'est une théorie de la moyenne idéale du capital et pas une sorte de théorie historique de tout le capitalisme, mais que le capital présente des catégories qui sont des catégories d'une moyenne idéale. Et donc ça, Mao va le reprendre. Donc, il n'a pas prétention à parler du pouvoir dans toutes ses configurations historiques, dans toutes les formations sociales, mais un pouvoir de la contrainte économique du capital selon une moyenne idéale. Et donc, on va voir, en fait, on pourra en parler, mais la structure du livre, c'est d'avancer de choses les plus abstraites à des choses les plus concrètes, en suivant toujours l'idée que, voilà, il ne va pas parler de toutes les modalités de la crise de 2008, mais qui va essayer de comprendre voilà quelles sont ces grandes catégories qui structurent le capital. Et puis, pour revenir peut-être juste à cette thèse principale, ce qui compte pour Mao, c'est de dégager la spécificité du pouvoir économique. Donc, de distinguer d'un pouvoir idéologique et du pouvoir coercitif de l'État, qui sont en fait des formes de pouvoir qui existent avant la formation sociale capitaliste, et qui ne sont pas, selon lui, l'objet spécifique de Marx et l'objet spécifique du capital, surtout. Donc, lui, il va vraiment essayer de reconstruire, et on va voir comment, ce que c'est que cette contrainte muette et ce pouvoir économique du capital, en disant que, dans la réalité, eh bien, les trois sont liés. Il n'y a jamais de pouvoir économique sans pouvoir coercitif et sans pouvoir idéologique, mais ce qui l'intéresse, lui, c'est autre chose. Donc, voilà.
Alors justement, pour suivre Mao dans son cheminement et l'abstraction de la moyenne idéale, on va commencer par la première partie et un concept qu'il introduit, qui est celle du capital comme propriété émergente. Alors c'est intéressant parce que ça lui permet de se situer aussi par rapport à des approches critiques du pouvoir un peu plus traditionnelles. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce concept-là et comment il l'utilise ?
Une des choses que permet ce concept, ce Mao, c'est que il cherche pas juste à discuter à l'intérieur d'un certain milieu marxiste leur conception du pouvoir, il s'attaque aussi à la pensée mainstream, bourgeoise, libérale, à la fois parce qu'elle est mystificatrice et puis parce qu'elle est fausse, tout simplement. Et du coup, dans les grandes traditions sociologiques, ou ouais, traditionnelles ou économiques du pouvoir, le pouvoir est souvent entendu comme un événement momentané entre deux individus, deux acteurs, deux sujets, avec l'un qui exerce sur l'autre son pouvoir, et que ce soit le produit d'une volonté. Donc c'est des entités discrètes, c'est un événement qui a lieu dans un moment T, et c'est le produit d'une intentionnalité. Ce que Mao essaye de dire, avec cette idée de propriété émergente, c'est que la logique sociale du capital, celle de l'accumulation et de la valorisation, elle s'exerce malgré les sujets. Et ça change quelque chose d'essentiel, c'est que du coup la nature des sujets en présence dans ce rapport de pouvoir est modifiée par cette relation. Dans la théorie libérale, les individus ou les sujets, les acteurs qui rentrent dans ce rapport de pouvoir ont une certaine essence, une certaine nature, une identité qui les caractérise, et le fait que l'un exerce une domination sur l'autre ne les change pas
pour l'essentiel. Là, c'est l'inverse, il y a bien une structure sociale à l'intérieur desquelles les entités, les acteurs qui rentrent en rapport sont modifiés, ont leur place dans les rapports sociaux et le produit de ce pouvoir lui-même. Et donc ça lui permet d'avoir une vision structurelle du pouvoir, une logique sociale qui traverse de part en part les interactions, les institutions, les champs sociaux. Ensuite, dans un second temps, et c'est peut-être à la fois plus anecdotique, mais en même temps plus important dans ce qui nous intéresse ici, ça lui permet de remettre au centre cette question de rapports sociaux. C'est-à-dire que le pouvoir, c'est quelque chose qui a lieu à l'intérieur de rapports sociaux. Et là, il vise plus particulièrement un genre de théorie critique et d'un certain marxisme qui a tenté de se renouveler à travers la critique de la valeur notamment, ou la théorie de la forme de valeur au sens plus large, qui font du capital un sujet. C'est-à-dire que puisque le pouvoir est attribué à des sujets, et que le capital a un pouvoir, donc le capital est un sujet. Et ce qui insatisfait Mo là-dedans, c'est que ça fait du capital un espèce de sujet omnipotent et omniprésent qui s'incarnerait ensuite dans une série de métamorphoses, mais finalement c'est le seul sujet agissant et les rapports sociaux disparaissent un peu au second plan puisqu'ils sont juste des incarnations successives et secondaires et dérivées. Pour Mao, il y a un problème avec cette conception, c'est qu'elle parle d'un défaut de compréhension de ce qu'est le sujet automate. Chez Marx, il s'agit bien d'une apparence fétichiste et mystificatrice du capital tel qu'il apparaît dans la sphère de la circulation, c'est-à-dire juste le capital en tant qu'il est une masse monétaire qui cherche à devenir plus d'argent. Mais pour prendre l'intégralité du capital dans son processus de reproduction, il faut bien faire revenir ses rapports sociaux, l'exploitation, la propriété, la reproduction sociale, on y reviendra. Et donc c'est insuffisant, et non seulement c'est partiel et partiel, mais ça masque le... Et du coup la propriété émergente, pour finir, c'est la manière dont ce pouvoir émerge de ses rapports sociaux, et en tant qu'il est la totalité qui excède ses parties, c'est-à-dire que c'est une propriété qui émerge du fait même que ces parties, en rentrant en relation dans cette structure sociale spécifique et en répondant à cette logique sociale de l'accumulation, produisent une totalité qui dépasse la somme de ces parties. C'est ça l'idée de propriété émergente. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est quelque chose qui vient plus du champ des sciences dures, de la biologie au départ. Mais ça évite, voilà, ce double écueil.
Et dans le même temps, ça permet au capital d'appliquer son pouvoir ou de l'exercer sur l'ensemble de la réalité sociale. Les rapports sociaux, on va y revenir un peu plus loin dans l'émission, puisque c'est le cœur, finalement, de la deuxième partie de l'ouvrage de Mao. Tu mentionnais aussi son rapport donc à certaines théories marxistes. On va pas rentrer dans le détail, mais je le dis pour les auditeurs et auditrices que le deuxième chapitre de Mao est assez complet et analytique, justement, sur la question du pouvoir et du marxisme, donc avec les théories marxistes de l'État, de l'idéologie, de la dualité violence-idéologie. Bien évidemment, Mao n'est pas le premier à s'intéresser à la question du pouvoir économique. Il va parler aussi d'un certain nombre de théories marxiennes. Et encore une fois, hein, c'est vrai qu'il a cette capacité à en rendre compte. Et il y a quand même une grande diversité de théories qu'on sent qu'il faut les avoir lues. Il faut être capable de les restituer en peu de paragraphes. Donc il se situe dans son livre par rapport à pas mal de champs théoriques. La critique de la valeur, tu en parlais, le marxisme politique, le marxisme écologique, le féminisme marxiste. Il va aussi regarder, ça c'est plutôt dans la troisième partie sur les dynamiques, l'analyse du process de travail, la spatialité du pouvoir économique du capital avec David Harvey. Et vous en parliez au début par rapport à votre ligne éditoriale, il se situe aussi par rapport à Jasper Bernd, Sennott, ces collectifs-là que vous avez également édités. Donc tout ça pour dire qu'il en parle en détail et toujours de manière critique et pédagogique. Dans cette partie, la première partie, les conditions, ce qui va l'intéresser, en fait, c'est l'endroit où vient s'insérer le pouvoir du capital. Et pour identifier cet endroit, donc certes d'une manière assez abstraite, il a besoin de convoquer les notions de logique sociale, d'ontologie sociale, de voir si il y a une sorte de nature humaine. Alors pas pour critiquer le capitalisme au nom de la nature humaine, mais pour essayer de comprendre justement comment ça se fait que ce pouvoir économique puisse s'insérer à un endroit particulier. Il y a des pages intéressantes aussi sur l'organisation corporelle humaine. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots, Camilla, sur la richesse de cette notion-là? Pour moi, c'est vraiment... Enfin, le bouquin est très intéressant, mais c'est quand même quelque chose de très intéressant à ce niveau-là. Moi, c'est une idée qui m'a pas mal marqué.
Effectivement, donc la première partie, c'est les conditions, et quelque part, c'est presque le moment où il décrit pas encore le capital, mais il décrit qu'est-ce qui rend possible le pouvoir du capital. Et donc là, la partie se situe aussi dans les débats marxistes. Alors moi, j'ai toujours été plutôt sceptique des tournants ontologisants ou des ontologies marxiennes du capital. Et en fait, en lisant le livre, j'étais très convaincue parce que je trouve pas que c'est vain, je trouve pas que c'est des fioritures, je trouve pas qu'il philosophe ou c'est philosophant, je trouve que il a des arguments. Alors peut-être pour le resituer, il va prendre deux débats qui sont le débat humanisme anti-humanisme qui traverse le marxisme pendant tout le XXe siècle, et ça c'est donc le premier débat, et l'autre c'est on va dire historicisme et anhistoricité ou ontologie en fait abstraite. Et donc il va essayer de se situer dans les deux, et il va montrer qu'en fait à la fois il faut que le marxisme est une ontologie sociale, et aussi que le marxisme s'énonce ou dise quelque chose de son rapport à l'humanisme, ou en tout cas au fait que Marx aurait une théorie de ce qu'est l'humain. Et les deux vont être imbriqués, donc la question de l'humanisme et la question de l'ontologie sociale sont interreliées ou liées. Il va expliciter que, en fait, pourquoi il a besoin d'une théorie ontologique du social, c'est que il dit que de facto le marxisme en a toujours eu, même quand elle l'énonce pas. Il dit le marxisme traditionnel ou le marxisme on va dire orthodoxe en a une, et c'est celle d'un déterminisme historique. Il y avait une sorte d'ontologie des forces historiques qui se déploient de manière automatique ou qui se déploie selon un déterminisme historique, et que ça c'était une ontologie. C'est ce qui a été critiqué par un certain marxisme critique. Mais qu'en fait, la critique n'est pas suffisante, et qu'en fait, il faudrait avoir une position, puisqu'il va regarder ceux qui critiquent aussi le marxisme orthodoxe, donc les Poston, la critique, etc., toutes ces critiques-là, qui vont parler d'une historicité des catégories du capital, qui vont dire, en fait, ce marxisme-là, il ne voit pas ce que Marx décrit, c'est une historicité spécifique, en fait, des rapports sociaux. Et il dit, mais ça produit un certain historicisme aussi, c'est-à-dire que, du coup, il n'y a plus rien de fixe. Si on dit que tout est historique, on ne sait pas contre quoi émerge, qu'est-ce qui précisément, négativement, n'est pas spécifiquement historique. Donc, il essaye de comprendre donc quel est le rapport métabolique que les êtres humains ont à la nature, et à partir de là, de comprendre qu'est-ce qui est spécifique du rapport humain à la nature. Et c'est dans ce rapport métabolique-là qu'il va voir l'insertion du capital. Le capital va profiter d'une certaine faiblesse quasi ontologique qu'il y a. Alors c'est quoi la faiblesse, ou c'est quoi la précarité ontologique? C'est que c'est une théorie de l'outil, et du fait que les outils qui sont nécessaires à la reproduction de la vie humaine ont toujours existé dans toutes les communautés. Donc les humains ont un rapport aux outils qui est quasi universel ou anhistorique, et que en fait les outils qu'utilisent les êtres humains sont un prolongement quasi corporel. Donc c'est ça sa théorie, il appelle ça une théorie de l'organisation corporelle, qui est que pour produire et reproduire leurs moyens de subsistance, les humains utilisent des outils qui sont comme des organes externes du corps humain. Et c'est ce qui crée cette précarité, on va dire, ontologique, c'est précisément qu'ils sont détachables. Ces outils humains sont détachables de ce corps. Et donc, une des spécificités du pouvoir du capital, c'est de s'insérer dans cette espèce de brèche qui existe entre le corps et ses outils. Et donc là, on voit bien, enfin, en tant que marxiste, comment c'est intéressant de repenser la réappropriation des moyens de production à travers, en fait, cette théorie ontologique, en fait, du rapport qu'ont les corps humains à leurs outils.
Il y a un moment où il va rajouter aussi la dimension sociale. Il utilise le terme de fabricants sociaux d'outils, en disant que, en fait, on a besoin d'un métabolisme avec la nature pour la reproduction générale de l'humanité, mais en disant qu'il y a une certaine liberté dans la forme. Donc c'est là que c'est assez fin, c'est-à-dire qu'il y a une liberté dans la forme, donc il n'y a pas de côté transhistorique ou complètement naturel, en disant bah les conditions de la reproduction sont celles-ci, et puis on critiquerait le capital au nom d'une nature humaine perdue ou quelque chose comme ça. Mais par contre, il a besoin de cette nature humaine-là, dans le sens vraiment de fabricants sociaux.
Donc, professeur, je veux rebondir rapidement sur ce que tu dis là-dessus. C'est vrai que non seulement il y a cet aspect-là, c'est-à-dire que l'outil, et en tant que c'est toujours un outil produit socialement, du coup, il y a une division du travail, on n'utilise pas nécessairement pour sa propre reproduction les outils qu'on a soi-même produits, que du coup, il peut être approprié par un autre groupe d'humains. Les classes sont possibles presque au niveau de cette corporéité humaine spécifique. Ce que ça leur amène à dire, cette espèce de humanisme sous-déterminé, c'est-à-dire qu'il y a une nature humaine, et la nature humaine, sa particularité, c'est qu'elle est sous-déterminée, elle ouvre à l'histoire. C'est que du coup, politiquement, ça fait que, utiliser comme les humanistes marxistes le font traditionnellement, la nature humaine comme critère normatif, comme critère de jugement sur le capital, comme forme non naturelle, antinaturelle de cette, l'organisation de cette reproduction sociale, c'est caduque. C'est pas possible dans ce cadre théorique-là. Donc on évite tout risque de naturalisation, de, voire même de biologisation, avec tout ce que la cohorte, on imagine bien, de conclusions politiques qui peuvent aller sur énormément de questions, le genre, la biologie, l'écologie, etc. Et, dans un second temps, ça permet aussi de poser cette question du rapport de l'être humain à ses outils, à sa reproduction, comme une question éminemment politique. Puisque, comme tu disais à l'instant, puisque par définition, c'est la détermination, c'est la nécessité d'une liberté à cet endroit, ça veut dire qu'elle est toujours un moment et un espace qui peut être, qui doit être renégocié, repolitisé, et le produit de conflits. Et du coup, ça crée aussi, même sur la question du communisme, et du contenu du communisme, une certaine ouverture, parce que du coup, il n'y a pas le communisme connu au sens où il serait naturel, c'est comme ceci, ce serait la bonne manière de faire rationnel, non. Même le communisme, même une autre organisation de la reproduction de l'espèce, serait toujours et en permanence un enjeu de renouvellement, d'antagonisme, de conflits sociaux et politiques. Et donc il y a, je pense, cette dimension de l'ouverture et de l'indéterminé, ou la nécessité d'un endroit d'indétermination, est vraiment essentielle pour Mao, et elle se repose à plusieurs moments dans le livre.
Peut-être juste pour lire un tout petit passage, en plus, bon, moi, ça m'a fait rigoler, mais je vais lire ça. Il dit « Le fait de passer toute sa vie le nez collé à son écran de smartphone dans une grande métropole, et de se nourrir de plats préparés dans des chaînes de fast-food sans savoir d'où proviennent les aliments, ni comment ils ont été produits, ne signifie pas qu'un lien sacré a été rompu entre la nature et nous-mêmes. Cela signifie simplement que notre métabolisme individuel est médiatisé par un système complexe d'infrastructures, de données, de machines, de flux financiers et de chaînes d'approvisionnement à l'échelle planétaire. » Enfin, je trouve que c'est assez intéressant. On voit bien justement qu'il n'y a pas une espèce de naturalisme un peu foireux. Et en même temps, là, il situe justement, on voit bien toute la chaîne de dépendance et de domination économique qui s'est insérée dans les conditions de la reproduction.
Oui, du coup, il a une théorie du corps humain qui est spécifique de celui du corps animal, c'est-à-dire qu'il utilise des outils. Et donc le rapport métabolique qu'on a à la nature, il est médiatisé par des outils, mais cette médiation, c'est elle qui est libre. C'est-à-dire comment on organise notre rapport, en fait, autour de cet usage des outils, c'est ça qui ne cesse de changer. Et que la spécificité aussi, on va dire, de ce rapport métabolique, c'est que la reproduction des êtres humains, elle est toujours codépendante d'autres êtres humains. Donc elle est toujours quelque part déjà sociale. Donc c'est un peu étrange parce qu'effectivement, on dirait qu'on revient à une sorte d'essence humaine, mais pour en fin de compte dire qu'elle est intrinsèquement sociale, en fait, cette organisation-là, de notre rapport à la nature.
Une des conditions nécessaires, mais non suffisantes, c'est là, bien sûr, que vient la question politique en jeu, c'est que cette capacité pour un groupe humain à s'approprier les outils de la reproduction de l'espèce pour son bénéfice, elle est dédoublée d'une autre, qui est que les groupes humains, de temps, ont toujours travaillé au sens de reproduire les conditions d'existence de l'ensemble du groupe, y compris pour des gens qui ne travaillaient pas. Alors, plein de raisons. Mmh. Ça peut être des incapacités momentanées, l'âge, l'enfance, il y a plein de raisons, pour aussi un fonds de subsistance pour les moments où, pour des raisons de maladie ou de handicap, on n'est pas capable de participer de cette reproduction métabolique. Mais cette capacité donc de surtravail à travailler plus que pour sa seule reproduction individuelle à un moment T, c'est une autre de ces conditions métaboliques qui est liée au corps humain lui-même, qui permet aussi les classes, puisque ça veut dire que un groupe social ou un sous-groupe à l'intérieur d'un groupe humain donné peut s'approprier une partie du produit social pour sa propre reproduction sans avoir à participer à la production de ce produit social. Et donc c'est une autre des conditions nécessaires mais non suffisantes, c'est-à-dire que cette question métabolique qui est liée à l'organisation corporelle humaine elle-même et ses capacités permet l'existence des classes et ne les rend pas nécessaires. Encore une fois, on retombe sur la question politique de qu'est-ce qui est possible dans cet espace d'indétermination déterminé lui-même par le métabolisme.
Donc tu mentionnes que effectivement cette capacité au surtravail va nous emmener ensuite à la question des classes. On est à la fin de la première partie de Mao. Je vous propose d'abord une petite lecture de passage choisi où il va synthétiser avec ses propres mots ce qu'on vient de dire, et ensuite on va passer à la question des rapports de classe. Alors. À ce stade, les grandes lignes du cadre socio-ontologique nécessaire à la compréhension de la contrainte muette des rapports économiques sont dessinées. Ce que nous avons présenté dans les chapitres précédents ne constitue pas une ontologie sociale tout court, mais une ontologie sociale du pouvoir économique, et pour ce faire, nous avons proposé de partir de la question très disputée de la nature humaine. Nous avons soutenu qu'il fallait intégrer l'analyse marxienne de l'usage des outils par les humains à la notion d'organisation corporelle. Cette synthèse nous permet de comprendre comment la structure du corps humain implique une certaine porosité et flexibilité dans son métabolisme avec le reste de la nature. Plutôt qu'une unité originelle entre les humains et la nature, il existe un clivage naturel, étant donné que certaines parties du corps humain, les organes-outils, ne sont que faiblement reliées au reste du corps, ce qui leur permet de circuler dans l'environnement. L'interprétation de l'organisation corporelle humaine proposée dans ce chapitre implique qu'il existe en fait quelque chose comme une nature humaine, elle implique même une notion transhistorique de nature humaine. À première vue, cela semble résolument nous ancrer dans le camp humaniste, contre l'anti-humanisme althusserien. Cependant, la position défendue ici échappe du moins en partie aux catégories habituelles du débat. Le concept de nature humaine présenté ici exclut la possibilité de lui assigner une fonction explicative ou une fonction critique vis-à-vis de formations sociales historiquement spécifiques. Ainsi, si le concept de nature humaine n'a pas sa place dans l'analyse de modes de production spécifiques, il n'en demeure pas moins un élément central de l'ontologie sociale marxiste. L'organisation corporelle des êtres humains est une composante cruciale de l'explication des multiples formes possibles que prend la reproduction sociale humaine. Elle permet de comprendre comment le social émerge dialectiquement de la nature, et ainsi comment l'histoire naturelle elle-même donne naissance à l'histoire humaine, sans réduire la logique de cette dernière à celle de la première. Elle révèle la pauvreté de l'économisme en montrant que ce que nous avons appelé l'économie est social de part en part, et qu'il n'existe pas quelque chose comme un mode de production naturel. En outre, une telle compréhension de l'organisation corporelle humaine explique pourquoi les humains ont cette capacité particulière de déléguer la reproduction des rapports sociaux au moyen desquels ils régulent leur métabolisme avec leur environnement matériel. Associée à la capacité au surtravail, cette organisation corporelle explique également la raison pour laquelle les rapports sociaux de domination peuvent se reproduire en s'imbriquant dans la reproduction de la vie sociale. Cette conception fournit donc l'explication de la possibilité du pouvoir économique. La synthèse par l'auteur lui-même, que je trouve assez claire, et toujours dans ce souci pédagogique et analytique.